La grâce et la paix vous sont données de la part de celui qui était, qui est et qui vient. De la part du Saint-Esprit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Ô Dieu, ton soutien pour avancer, ta force pour aimer et ton amour pour vivre, ils nous sont nécessaires. Sois au milieu de nous. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Me voici Seigneur Sauveur ». Psaume 122, quelques extraits. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Cantique 33-34, page 434. Hosanna au plus haut des cieux. Prenez place. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, en un jour semblable, tu es entré dans la cité rebelle où tu devais mourir, et tu as purifié le temple profané par les marchands. Viens habiter en nous. Purifie-nous de tout ce qui n'a pas le droit d'être en nous, et fais de nous tous, un sanctuaire où brille la flamme de ton amour. Amen. Tel que je suis, nous restons assis pour chanter. Thank you. dans le livre des psaumes, un verset annonce ceci : l'offrande agréable à Dieu, c'est un cœur brisé. Mais un autre verset dit : le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé. Les sages se sont posé la question : si un cœur brisé est agréable à Dieu, pourquoi le guérit-il ? Ce que Dieu aime, c'est un homme dont le cœur est brisé, mais dont l'esprit est gracié. Un homme capable de plier les genoux pour apprendre à se tenir debout. Devant Dieu, rien n'est plus parfaitement entier qu'un cœur brisé. De ton cœur, Dieu a vu la brisure, il pense la blessure. Sa grâce est ta consolation, son pardon, ta guérison. Nous pouvons nous lever pour chanter à toi nos louanges. Ainsi parle le Seigneur. Si mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, s'il me cherche et revient de ses mauvaises voies, moi, dans le ciel, je serai attentif. Je pardonnerai son péché et guérirai son pays. Dieu nous pardonne et nous accueille dans le Christ Jésus. Amen. Pour qu'aujourd'hui je sois libre, prenez place. Voilà, le temps de la Passion se termine. Nous allons entrer dans la Semaine Sainte. C'est le dimanche des Rameaux. Chez nous, ce n'est pas un culte spécial, particulier. Bien sûr, c'est celui qui commence la Semaine Sainte. Chez les catholiques, vous le savez, c'est un moment que les prêtres ne trouvent pas forcément très important, mais qui connaît une grande influence parce que une histoire de rameaux qu'ils souhaitent faire bénir. Et c'est quelque chose qui est encore très vivace. Dans mon église d'origine, c'était le jour des confirmations. Voilà, ici, c'est un culte. On a décidé aussi de faire un culte d'offrande, un peu parce que c'était le seul dimanche qui restait. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les quatre dimanches de ce mois-ci ont tous été des cultes spéciaux, ont un couplet avec autre chose, assemblée générale, culte famille... Donc, il nous reste ce culte pour un culte d'offrande. Donc, on va essayer de réfléchir au sens du don, au sens de l'offrande. Parmi les textes proposés pour ce jour, j'en ai retenu deux, celui du prophète Ésaïe et bien sûr celui de l'évangile Matthieu pour cette année, qui raconte l'entrée de Jésus à Jérusalem. Avant d'écouter, avant d'écouter l'Écriture, nous prions. Jésus a dit, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Ouvrir un livre, le livre, et dire, voici les Écritures, c'est croire que la parole de Dieu s'adresse à nous par ces mots. Seigneur, nous ne savons pas tout. Nous attendons une lueur de sens, le témoignage discret, mystérieux de ton esprit. Amen.
Nous allons commencer par Ésaïe 50, versets 4 à 7. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Nous allons lire maintenant Matthieu 21, versets 1 à 11. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. » Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que se soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur. Montez sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. »
Parle-moi, Cantique 22:06. J'ai connu quelques jours de stress cette semaine, pour différentes raisons, mais notamment parce que je me retrouvais avec deux textes dont je ne voyais pas trop le rapport qui pouvait exister entre eux, et je devais faire une prédication, et en plus j'avais un thème, l'offrande, il faut bien qu'on en parle, qui n'avait lui rien à voir avec aucun des textes cités. Alors comment allais-je pouvoir me débrouiller à partir de ces textes ? Alors oui, vous l'avez sans doute repéré, il y a éventuellement une ouverture avec cette histoire d'âne qui se trouve là, que quelqu'un a bien dû placer là, que quelqu'un a bien dû offrir. Reconnaissez que d'une part, c'est un peu tiré par les cheveux, et d'autre part, que c'est un peu court pour faire une prédication là-dessus. Bon, on va néanmoins essayer. Jésus a besoin d'un âne, ou plutôt de deux, une ânesse et son ânon. Pourquoi ? On verra ça tout à l'heure. Mais il en a besoin. Et il envoie ses disciples les chercher dans le village d'à côté. Le ton est assez étonnant. On a l'impression d'écouter les consignes d'un film d'espionnage ou sur la résistance. Vous irez à tel endroit, vous prendrez tel objet, tel animal, et si on vous pose une question, vous donnerez tel code. Le Seigneur en a besoin. C'est assez surprenant, voire troublant. Ça laisse supposer que derrière cette montée vers Jérusalem, il y a une certaine organisation. Et les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, rapportent en termes quasi identiques cet épisode de l'ânon, de l'ânesse préparée. Jean, quant à lui, se contente de dire que Jésus a trouvé un ânon. Ce qui interroge, c'est que tout cela semble préparé, mais que les disciples, quant à eux, ne semblent pas être au courant. Au moins, les deux qui sont envoyés. Cette montée vers Jérusalem, qui est le point d'orgue du ministère terrestre de Jésus, n'est pas un coup de tête. Il est préparé minutieusement. Qui sont les gens ou la personne derrière cette préparation, en arrière-scène ? Quel est le but de la manœuvre ? Qu'espère-t-il en tirer ? Quel bénéfice politique ou religieux est-il attendu de cette arrivée à Jérusalem ? C'est peut-être pousser le bouchon et l'imagination un peu loin que d'imaginer une organisation secrète autour de Jésus. Mais on est bien obligé de se poser quand même la question. Des évangiles, nous pouvons obtenir la conviction que Jésus savait ce qu'il faisait, vers quoi il se dirigeait. Il avait en effet assez souvent annoncé sa mort. Nous pouvons également avoir l'inverse conviction en ce qui concerne les disciples. Ils ne comprennent pas, ou plutôt, ils comprennent de travers. Les autres personnages présents dans cette scène se divisent aussi en deux. D'un côté, les gens de la route, et de l'autre, les habitants de Jérusalem. Leur attitude à propos de Jésus est-elle aussi différente ? Les seconds s'interrogent, peut-être soupçonneux, sur l'identité de celui qui entre, et les premiers acclament, que ce soit la foule ou les habitants. Leur compréhension des faits est incomplète, faussée. Les différentes interprétations tournent autour des idées de la solution politico-religieuse. Fils de David, roi, messie, envoyé de Dieu, prophète. Nous, à distance, confortablement, nous savons que tout cela n'est qu'un malentendu. Mais quel message Jésus a-t-il voulu faire passer ? Et okay, qu'en espéraient ceux qui avaient préparé les montures ? Matthieu nous laisse entendre que Jésus voulait réaliser, ou du moins s'inscrire, dans la vision donnée au prophète Zacharie et rapportée par le livre qui porte son nom. Vision qui annonce l'entrée d'un roi pacifique dans Jérusalem. En effet, le passage de Zacharie, auquel il est fait référence, insiste sur le côté pacifiste, réconciliateur du roi, sur sa monture de pèlerin qui vient désarmer la population prête à la guerre. Nous, toujours à distance, nous savons que ce n'était pas l'attente principale des milieux populaires et religieux juifs de cette époque. À nouveau, nous savons qu'ils attendaient un libérateur, tant politique que religieux, qui viendrait restaurer leur indépendance, leur liberté, leur dignité. Et ce n'était pas exactement non plus le projet de Jésus. Même s'il est difficile de savoir ce qu'il comprenait exactement de son avenir immédiat, nous savons qu'il savait que le triomphe politique ou religieux ne serait pas le terme de son aventure jérusalémite. Quant à ceux qui ont donné l'âne, qu'avaient-ils compris ? Ils avaient offert un cadeau qui a un sens précis, mais avaient-ils compris ce sens ? Il est évidemment impossible de répondre à cette question. Eh oui, tout ça pour en arriver là. Mais cela me permet néanmoins de poser cette question. Comprenons-nous, nous-mêmes, le sens de nos actions, le sens symbolique, j'entends, le sens de notre don, le sens de notre offrande. Bien que je pense qu'aucun de vous n'ait jamais donné d'âne à l'Église, et je ne ferai aucun jeu de mots sur la question, je suis sûr que vous avez tous, d'une manière ou d'une autre, fait des offrandes, dons en argent, dons en temps, en énergie, en travail, dons en nature ou en espèces. Avons-nous toujours perçu la dimension symbolique de ce don? En avons-nous mesuré la portée spirituelle? Bien sûr, quand on donne de l'argent, on comprend bien ce qu'on donne. Surtout, on comprend combien on donne. Mais on ne sait pas toujours à quoi ça va servir et si ça va être à bon usage. Et d'autre côté, il y a la question de combien. Combien faut-il donner? Sera suffisant? C'est une question que j'entends fréquemment lors de la préparation d'actes liturgiques, baptême, enterrement, mariage, et à laquelle je refuse de répondre par un chiffre. Ah, ça embête un peu les gens, parce qu'ils voudraient bien savoir la somme au moins approximative, ce que donnent les autres, comme ça, pour savoir, pour ne pas passer pour des pingres, ou pire, être en dette morale avec l'Église. Mais bon, on ne va pas non plus donner des sommes trop grandes. Difficile de juger. Et j'essaye de leur faire comprendre, mais ce n'est pas facile à expliquer, et ce n'est pas facile à comprendre, que la question n'est pas celle du chiffre, mais celle du geste. Vous avez sans doute en mémoire l'épisode de la pauvre veuve qui mettait ses deux piécettes, qui sont pour elle plus que les grosses sommes mises par les riches. C'est un enseignement que généralement les trésoriers n'approuvent qu'à moitié. Mais évidemment, cet épisode n'est pas un encouragement à la pingrerie. Dans une de mes paroisses précédentes, il y avait une dame d'un certain âge qui vivait très modestement, voire chichement, et qui ne pouvait pas donner d'argent. Elle venait, du coup, aussi longtemps qu'elle le put, chaque semaine donner un coup de balai au temple, discrètement. Presque honteusement. Néanmoins, et ceux qui étaient présents à l'Assemblée générale il y a quelques semaines comprendront aisément à quoi je fais allusion, ce don de temps et de travail la plaçait à son insu, parmi les donateurs généreux de la paroisse, non par l'argent qu'elle donnait, ou plutôt qu'elle ne donnait pas, mais par les dépenses qu'elle évitait. Bien sûr, lors d'un culte d'offrande, j'imagine, que je suis censé insister sur le don pécuniaire, mais l'offrande peut prendre toutes sortes de formes. Lorsque j'ai atteint ma majorité en Suisse, j'ai passé ce qu'on appelle le recrutement et j'ai dû faire peu après mon service militaire dans l'infanterie. Mais je n'étais pas quitte de mes obligations, car si j'avais dû donner du temps à la défense de mon pays, à l'armée, il restait à participer à un autre service qu'on attendait des jeunes hommes, celui de pompier. Or, un jour, j'ai reçu un courrier d'une administration qui m'expliquait que certains citoyens devaient servir activement comme pompiers et que d'autres devaient contribuer financièrement à l'affaire. On m'informait par la même que le choix n'était pas laissé à chacun. Ce serait risqué ou de ne pas avoir assez d'argent ou de ne pas avoir assez d'hommes. On avait donc décidé pour moi et je n'avais pas d'autre choix que de me plier à une décision administrative basé sur je ne sais quel critère. Je devrais donc payer. Bon, ça m'arrangeait. Alors, je n'ai pas creusé plus loin. Ma contribution serait financière, elle aurait pu être en temps et en sueur. On ne choisit pas toujours ce que l'on donne, ni ce que l'on peut ou doit donner. Le don peut être évident ou surprenant. Il peut être suffisant, insuffisant, voire excessif. Peut-être correspond-il à ce dont on avait envie, ou au contraire, il concerne ce que l'on n'était pas prêt à faire ou à donner. Peut-être sera-t-il utile, ou au contraire, mal utilisé. Alors, je ne vais pas vous faire le coup trop facile du « c'est l'intention qui compte ». Non, parce que cette expression est juste là, généralement, pour masquer un échec ou justifier un don, un cadeau mal adapté, voire complètement pourri. Non, ce n'est pas l'intention qui compte, c'est le geste. Pas juste le geste de donner, pas n'importe quel geste. mais l'implication dans le geste. C'est la partie de soi que l'on a mis dans ce geste, dans ce cadeau, dans cette offrande. C'est le témoignage de l'espérance qui fonde le geste, qui lui donne sa vraie dimension. À ceux qui ont donné l'âne, ceux qui ont donné l'âne ont dû être bien déçus, on l'imagine, par la tournure des événements qui ont suivi la crucifixion. Pourtant, ils sont entrés dans le plan de Dieu. Pas le plan qui était le leur, qu'ils avaient pour Dieu, mais le plan que Dieu avait pour eux. Je n'aurai évidemment pas l'outrecuidance de comparer nos finances et le plan de Dieu, mais la nécessité d'une offrande peut passer par elle. Qu'attendons-nous de Dieu? Alors, ça dépend certainement de chacun, mais comme ça, à la volée, on peut citer qu'on espère qu'il va nous donner une bonne santé, qu'il va nous donner la réussite, qu'il va nous donner le salut, la vie éternelle. Que nous a-t-il donné en vrai? De l'amour? Oui, bien sûr. Mais il nous a surtout, et en cette période de Semaine Sainte, nous avons à y repenser tout particulièrement, il nous a surtout donné son Fils. Il nous a donné ce qui était le plus précieux à ses yeux. Il nous a donné son essentiel. Alors, allons-nous nous contenter de donner notre superflu? Et ici encore, il n'est pas question exclusivement d'argent. Et il s'agit encore moins de chiffres et de nombres. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Quand, psaume 25, page 52, 25, page 52, les strophes 1 et 4. 1 et 4. Nous restons debout pour dire ensemble la confession de foi qui porte le numéro 5. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis pour tous les humains. Et nous chantons donc... Heureux qui se confie en toi. Pour le temps de l'offrande, j'ai choisi un texte tiré d'une liturgie malgache. Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier de toutes les merveilles que tu as faites? Offre-moi tes mains vides, je les remplirai en abondance de biens. Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier de tout ce que tu as semé? Offre-moi ta lassitude, je la changerai en force inégalable. Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier de la force que tu m'as donnée? Offre-moi tes ignorances, je les changerai en sagesse sans pareille. Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier de la sagesse que tu m'as léguée? Offre-moi tes souffrances, je les changerai en salut pour les autres. Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier du salut que tu nous as offert? Offre-moi tes péchés, je les changerai en amour qui ne s'éteint pas. Oui, Seigneur, je t'offre tout cela et toute ma confiance. Sois remercié, sois béni, sois loué. Nous avons du Seigneur tout reçu, c'est maintenant notre tour de manifester notre reconnaissance. Amen. Voilà, Seigneur, nous déposons devant toi une partie de notre offrande. Permets-nous de l'employer à ton service et à celui de nos frères et sœurs. Amen. Alors, quelques annonces, Pierre. Alors, pendant que tu viens, tout à l'heure, Norbert va nous donner des nouvelles de Claudia et John. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles des mandalas ou d'Agnès Schild? Non. Oui? Oui. Ah, j'ai pas bien. Elle est rentrée, donc elle est rentrée chez elle. En ambulatoire. D'accord. D'accord. Mais pas plus de nouvelles que ça. Bon. Norbert.
Bonjour à chacune et à chacun. Alors, effectivement, je vais vous donner des nouvelles de Claudia et John. Pardon. Donc, nous sommes allés la voir vendredi, Claude Armengaud et moi. Elle est à Villaz. Donc, déjà, l'opération s'est très bien passée. C'était beaucoup moins long que prévu. Donc, cervicale, qui n'est pas du tout évident, mais ça s'est très, très bien passé. Et elle est depuis jeudi à Villaz. Ça se passe très bien aussi. Elle a bon moral. John, donc elle va rester un moment à Villaz, ne sait pas combien de temps, mais et John est au Préforné, ça se passe bien aussi. Donc sérénité, et elle nous a chargé de vous transmettre son amitié. Voilà.
Merci Norbert, merci Vincent. Ah ben voilà, il s'est déconnecté évidemment. Ah voilà. Tac tac. Donc aujourd'hui nous avons le culte d'offrande. Merci de votre présence ce matin. Merci à Frédéric qui nous a accueillis et à Andrea qui nous accompagne à l'orgue. Et merci pour les deux magnifiques bouquets de fleurs qui sont sur la table. Je suppose c'est Barbara. Après ce culte d'offrande, il y a un repas canadien qui vous est proposé. Et au cours de ce repas canadien, il y aura une discussion sur la vie de notre communauté. Donc il y a déjà eu deux temps... où on a parlé de ça, donc il y a quatre temps qui sont proposés pour que chacun puisse y participer. Il y aura encore un quatrième temps le jeudi 2 avril entre 18 et 20 heures. Aujourd'hui toujours, il y a les conférences de Carême sur France Culture, c'est la dernière, c'est ça ? Cette semaine, il n'y a pas de chorale ce mardi. Hier soir, la chorale était à Neufcelles, donc on a bien chanté, mais on est rentré tard. Voilà. Et aussi, la semaine qui vient de se passer, on a eu la conférence de M. Noyer sur Dietrich Bonhoeffer, et je crois qu'il y a encore des livres. D'accord, tu vas en parler. Donc cette semaine, sinon, mardi, il y a la prière à 7h et mercredi, la prière vous est proposée aussi à 18h. Jeudi soir, il y a le conseil presbytéral. Voilà, donc n'hésitez pas à communiquer avec les conseillers qui sont là ce matin. Vendredi, c'est la veillée du Vendredi Saint. Donc, c'est autour de la Passion avec des textes de l'Évangile de Matthieu, voilà, qui seront entrecoupés de différentes pièces de musique Bach, Elden, Vivaldi, Fauré, Rossini, interprété par Mathieu Schweitzer, Anne Seigneur et Anne Marchand au chant. Voilà. Dimanche matin, ça sera le dimanche de Pâques. Donc, il y a notre rendez-vous œcuménique annuel au bord du lac, donc l'aube pascale, à partir de 6h45. Voilà, le rendez-vous était à 6h45. Et si vous loupez ce rendez-vous de 6h45, vous pouvez venir directement sur la plage d'Albini à 7h. Donc, c'est un temps œcuménique autour d'un feu avec des prières animées par tous les chrétiens d'Annecy. Et puis dimanche, bien entendu, le culte à 10h ici. Voilà.
Tu permets alors, j'aimerais bien qu'il y ait tous les chrétiens d'Annecy à la veillée, enfin à l'aube pascale. Il faudra se contenter des représentants de la plupart des églises d'Annecy. Bon, c'est très bien, je vous invite vraiment à venir. C'est un temps sympathique, chaleureux. C'est vrai que c'est tôt, hein, c'est le principe d'une aube. Voilà. Vendredi, Yves Noyer est venu faire une conférence sur Dietrich Bonhoeffer. On voyait qu'il c'est comme quelqu'un qui maîtrisait son sujet, qui était passionné par son sujet, avec les défauts que ça a, c'est-à-dire que dès qu'on lui posait une question, il déroulait absolument tout. Mais très, très intéressant. Il a écrit un livre, il nous en reste quelques exemplaires, il l'a dit, à vendre, sinon on va les rendre à la librairie. Donc c'est « Un chrétien contre Hitler et le régime nazi, Dietrich Bonhoeffer, dire Dieu dans un monde sans Dieu ». Donc il est là. Il est vendu à 24 €. Si ça vous intéresse, on peut voir ça après. Oui, oui, je t'en prie.
Oui, une petite annonce pour PPP, le groupe Pain Parole Partage, parce qu'il y a une faute de frappe dans le nouvel actuel. C'est marqué que nous nous rencontrons le 15 avril, dimanche 15 avril. Alors, il n'existe pas, c'était dimanche 15 mars en fait. Et donc en avril, puisque le week-end famille, on est à Manigot, il n'y a pas de groupe PPP ici. Et le prochain rencontre sera en mai. Je n'ai pas la date, mais ça sera annoncé. Voilà, donc seulement en mai, autour du livre de l'Ecclésiaste. Voilà. Merci.
Après, a priori, c'est le 31 mai.
Enfin, je ne sais pas.
Oui.
Juste, il y a parfois des résonances étonnantes. Je voudrais la souligner parce que donc Vincent nous a dit qu'il avait éprouvé un certain stress. Vous allez voir, il y a des résonances qui sont bonnes à souligner. La dernière conférence de Karen qui sera donnée sur France Culture cet après-midi à 16h. Le thème, c'est, j'en ai parlé déjà, l'audace de vivre et des gestes pour espérer. Or, que nous a dit notre bon berger tout à l'heure? Il nous a dit des gestes qui font de l'espérance. Ça, c'est pas par hasard. Pour moi, rien ne relève de hasard, tout relève de l'hasardieux. Donc, merci à notre bon berger.
Oui, bon. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, nous sommes rassemblés devant toi aujourd'hui. Guide chacun de nous dans le droit chemin et vers un bon avenir. Donne-nous le sens de nos responsabilités et de la fidélité. Accorde-nous toujours le pardon et la vie. Donne-nous des moments de prière pour nous rapprocher de toi et pour nous rappeler que le Christ est mort pour nous. Aide-nous à aimer la vie, à y mettre une lumière d'espoir. Apprends-nous le partage et la sincérité et la bonté. Donne-nous un esprit ouvert. Donne-nous la force nécessaire pour résoudre nos problèmes et surmonter nos échecs. Seigneur, souviens-toi de nous dans ton règne. Apprends-nous toi-même à prier. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et pour le chant final, la paix du Seigneur que nous chanterons après. Employez votre temps à rêver. Employez votre énergie à prophétiser. Employez votre espérance à recevoir des visions d'amour, de paix et de justice. Employez votre vie à affirmer simplement la joie, le courage, la foi et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Sauveur. L'Esprit vous accompagne, il vous rendra paisible, inventif et fidèle dans vos promesses et dans vos actes. Allez dans la joie et la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous. Et avant que vous partiez, si vous êtes disponible, j'ai besoin de lecteurs pour vendredi, pour le récit de la Passion.